7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une question: qui sont les enfants gâtés du capitalisme responsable? En pleine angoisse face au changement climatique qui avance toujours plus vite que prévu, les canicules, les sécheresses, les inondations, les tempêtes, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, eh bien les classes aisées et éduquées se disent qu'il faut faire quelque chose à titre individuel, se donner bonne conscience, sans trop perturber si possible ses pulsions de consommation. Vous pouvez bien sûr nous appeler si le sujet vous intéresse au 33 7 64 45 51 41 et on va se poser cette question: l'idéologie de la consommation éco-responsable a-t-elle définitivement enterré la déconsommation? Sommes-nous tous des enfants gâtés à partir du moment où nous parvenons à terminer à peu près sans trop de difficultés notre fin du mois? La question, elle est posée par Fanny Paris, anthropologue. Bonjour Fanny Paris.
Bonjour.
Pas de stress, vous venez d'arriver, vous étiez en prise avec les embouteillages. Vous publiez « Les enfants gâtés, anthropologie du mythe du capitalisme responsable ». J'ai apprécié d'ailleurs votre dédicace à Emmanuel Bastide. Bienvenue de l'autre côté du miroir. Vous envoyez la même dédicace à tous les journalistes, hein, j'imagine.
Pas forcément, c'est catégorisé en fonction du type de média et de la personnalité.
Anne de Rugy également avec nous aujourd'hui en direct chez 7 milliards de voisins. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'université Paris-Est Créteil et vous avez aussi un parcours de militante écologiste. Vous travaillez sur les déclassements choisis, c'est-à-dire des bifurcations professionnelles avec baisse de revenus. On va expliquer tout ça. Et bien sûr, vous pouvez nous téléphoner si vous le souhaitez au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, bienvenue.
Fanny Paris, pourquoi et comment vous vous êtes intéressée en tant qu'anthropologue à nos modes de vie, à la consommation qu'on appelle éco-responsable? Je pense qu'il va falloir réexpliquer de quoi il s'agit d'ailleurs.
Alors moi, initialement, je suis une anthropologue de la jungle urbaine et j'essaye de comprendre qu'est-ce qui motive nos modes de vie, le sens que l'on va avoir dans notre quotidien. Et cette dernière décennie, je me suis intéressée au départ à la déconsommation et à ceux qui prenaient le consommer moins pour vivre mieux. Et au fur et à mesure de mes recherches et de mes investigations de terrain, je me suis rendu compte qu'il était rarement question de consommer moins, mais surtout différemment et voire plus. Et du coup, l'éco-responsabilité, ça va être des pratiques que je vais intégrer au sein d'un récit collectif que j'ai nommé le mythe du capitalisme responsable et qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition éco-environnementale.
Ouais, on va redéfinir quand même ce qu'est la consommation éco-responsable.
La consommation éco-responsable vise, par le déplacement ou l'évolution des pratiques d'achat ou de consommation, à avoir un impact davantage vertueux sur l'écologie, la justice sociale, etc.
Est-ce qu'on peut donner des exemples ?
Par exemple, on va valoriser des produits qui vont être labellisés bio ou qui vont avoir des matériaux éco-conçus qui vont permettre d'avoir une empreinte carbone qui va être diminuée. On peut également valoriser des produits qui vont être conçus près de chez soi ou qui vont suivre des règles de production qui vont être éthiques.
Ouais, alors des exemples de produits maintenant. La voiture à moteur hybride.
Alors, la voiture à moteur hybride, de manière spontanée, on a envie de dire oui. Mais par contre, si on regarde un petit peu plus loin, on se dit pas forcément, tout va dépendre de la capacité à recycler cette fameuse batterie. Donc, c'est pas forcément si éco-responsable. En fait, dans mes recherches, je m'intéresse aux images de l'éco-responsabilité, souvent à l'écart entre des pratiques que les individus vont percevoir comme plus éthiques et plus vertueuses, et sous couvert d'éco-responsabilité, et la réalité de leur mode de vie ou de leur choix d'achat qui ne sont pas forcément si éco-responsables que ça.
Anne de Rugy, vous êtes d'accord avec cette définition de la consommation éco-responsable ?
Oui, c'est ça. C'est l'idée que dans sa consommation, on ne va pas seulement penser à son propre intérêt, mais qu'on va aller acheter pour une cause. Enfin, en tout cas, on va dire parfois voter avec le porte-monnaie, c'est-à-dire choisir au nom d'une cause. Donc ça peut être en général éco-responsable, c'est plutôt au nom d'une cause écologique. Donc aujourd'hui, ça peut être sur... baisser son empreinte carbone, par exemple, ou au nom de la biodiversité, mais c'est souvent mêlé à une cause sociale ou éthique, par exemple dans le commerce international. Ça va être des boycotts, par exemple, ne pas consommer de produits avec de l'huile de palme. Et puis, à l'inverse, acheter des produits qui sont certifiés, qui ont un label, qui ont le label de l'agriculture biologique.
Quel est le lien entre la consommation éco-responsable et le greenwashing ?
Alors, c'est un lien qui est très proche parce que les deux vont mobiliser un imaginaire pour continuer à rendre désirable la consommation et surtout amener un changement qui va être moindre dans les modes de vie. Et comme vous le dites très bien, en fait, on va avoir un petit peu un amalgame entre différentes valeurs progressistes et des luttes qui vont avoir de l'importance dans la vie des gens, qui peuvent être d'ordre sociologique, sociétal, justice sociale, équité des genres ou écologique. Et en pratique, les deux sont un petit peu mélangés dans l'esprit des gens, ce qui va amener les individus à avoir une attention qui va être attirée sur certaines caractéristiques intrinsèques ou extrinsèques d'un produit ou d'un service et du coup le faire percevoir comme éco-responsable. Mais au final, c'est...
Vous pouvez nous donner des exemples
Des exemples, c'est pareil.
Je ne suis pas sûre qu'on comprenne où vous voulez en venir.
Par exemple, je ne sais pas, on va proposer une gourde en verre qui va être perçue comme éco-responsable parce que le fait d'avoir un objet en verre est perçu comme plus éthique qu'avoir un objet en plastique. Mais par contre,
c'est la réalité, scientifiquement, c'est prouvé.
Mais par contre, peut-être que le capuchon ou les autres matériaux de ce produit vont être produits en Chine ou dans des conditions qui ne sont pas forcément très vertueuses. Donc c'est comment on va amener l'attention sur une petite amélioration, sur un point précis, qu'on va cacher un petit peu tout l'iceberg qu'il y a de l'autre côté.
Mais on a l'impression que vous portez un jugement là-dessus. En l'occurrence, ne plus acheter de bouteilles d'eau en plastique dans un pays où on a de l'eau potable au robinet, on est bien d'accord, hein, et remplacer par une gourde qui va rester tout au long de l'année pour être remplie d'eau du robinet, de toute façon, d'un point de vue purement écologique, c'est la bonne attitude, Anne de Rugy.
Oui, certainement. Après, voilà, il peut y avoir des querelles de mesures, par exemple, sur la voiture électrique, sur son bilan carbone à la fin. Mais oui, la question de la consommation, c'est que c'est une question globale, en fait. C'est ça, peut-être, c'est que parfois, ça va être acheter des produits issus de l'agriculture biologique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup plutôt les classes aisées. Alors, ça se diffuse, faut pas être caricatural, mais c'est quand même une préoccupation de riches. Mais si ensuite, il y a même pas un week-end, un séjour à New York en avion, le bilan carbone est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui, effectivement, a d'autres pratiques alimentaires, mais finalement, un bilan carbone individuellement beaucoup plus faible.
L'exemple que vous décrivez, Anne de Rugy, est-ce que ce sont typiquement les enfants gâtés que vous décrivez, Fanny Paris ?
Effectivement, ce sont les individus qui veulent accompagner cette transition socio-éco-responsable au prix des moindres efforts et par la consommation. Ils vont mettre en place un certain nombre de stratégies pour pouvoir ordonner leurs envies, leur mode de vie et les nouvelles valeurs éco-responsables. Et ce que vous venez de décrire, c'est ce que j'appelle le crédit moral. Donc comment une bonne action permet de justifier d'autres actions qui sont un petit peu aux antipodes des valeurs que l'on peut prôner dans la vie quotidienne.
Vous avez réalisé des entretiens dans plusieurs pays développés, la France, le Canada, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne. Finalement, tous les pays où les gens ont un certain niveau de vie sont concernés par le fait d'être des enfants gâtés du capitalisme responsable.
Alors moi, mes travaux de recherche portent exclusivement sur les classes moyennes et les classes supérieures des pays occidentaux. Donc, et plus spécifiquement sur une partie de la population qui ne veut pas forcément consommer moins, mais consommer différemment et s'inscrire dans un moment de société. Et les enfants gâtés, du moins ce que j'appelle les enfants gâtés, c'est ceux qui croient dans la promesse qui va être portée par le capitalisme responsable et qui vont déplacer certaines pratiques de consommation ou d'expérience pour pouvoir ne pas renoncer au confort ou avoir un changement de mode de vie au prix du moindre effort.
Je reviens sur le terme gâté parce que autrefois, le terme gâté, ça avait davantage une signification de quelque chose d'abîmé. On parlait d'une pomme gâtée, ça voulait dire que c'était une pomme un petit peu pourrie. Et d'ailleurs, dans certains pays francophones, on a conservé ce sens-là. Est-ce que ces enfants gâtés que vous décrivez, ils sont précisément abîmée par le capitalisme.
Bah effectivement, c'est un petit les enfants gâtés, c'est un petit peu Janus. C'est qu'il y a deux visages. C'est que d'un côté, ils vont être les fers de lance de cette nouvelle manière de consommer qui va amener la permanence de nos institutions et maintenir le collectif dans un statu quo. Puis d'un autre côté, ils sont un petit peu pris au piège dans un système qui les dépasse et ils essayent de trouver des solutions de toute bonne foi, la plupart du temps, pour pouvoir réduire les injonctions contradictoires de la société et essayer de faire au mieux avec leur système de contraintes qui va être le pouvoir d'achat, le temps, les envies, aussi le regard des autres en fonction de leur milieu social ou de l'endroit où ils vivent. Donc on est vraiment dans une ambiguïté. Ils ne sont pas innocents pour la totalité, mais ils ne sont pas également totalement coupables par rapport à la poursuite de la consommation.
Personne n'est innocent par rapport à la consommation. Anne de Rugy, qu'est-ce qu'on sait sur la consommation par rapport au niveau de vie ?
Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont plutôt des mesures quantitatives. On essaie de mesurer le lien entre revenus et empreinte écologique. Et on peut même essayer de voir le lien entre revenus et conscience écologique. Et ce qu'on constate, c'est que plus le revenu est élevé, sans surprise, plus l'empreinte écologique en moyenne est élevée. Et donc le revenu et donc le niveau de la consommation marchande est essentiel. Plus on a un revenu élevé, plus on consomme. Et plus on consomme, plus on a une empreinte carbone importante.
Et ce n'est pas forcément bien intégré par les personnes concernées. Les classes aisées sont souvent affolées par les modes de consommation pas écolo, pas durable entre guillemets, des classes les plus modestes.
Oui, alors je pense qu'il y a deux raisons là-dedans. Il y a une raison qui est sincèrement constatée qu'effectivement, par exemple, sur la nourriture industrielle, elle a une empreinte carbone plus importante et puis elle a un impact aussi sur la santé. Et puis, il y a un jeu de distinction.
C'est aussi la nourriture la moins chère.
C'est aussi la moins chère, c'est aussi la viande la moins chère. Enfin, il y a aujourd'hui des viandes qui sont assez bon marché. Mais il y a aussi une distinction, un jeu social qui a toujours existé, qui est le mieux, une sorte de compétition sociale, et donc une distinction à dire « moi, je consomme bien ».
Mais pour vous, Fanny Paris, qui sont les enfants gâtés qui font des choix personnels de vie en lien avec la transition écologique ?
Alors pour moi, les enfants gâtés, ce sont des individus qui ont une absence de conscience de classe. Donc ils n'ont pas forcément l'impression de faire partie d'un groupe social qui a quand même pour le coup un impact dans la société. Ils vont avoir différents degrés d'engagement dans la psychospiritualité, la justice sociale, le bien-être et le respect de la condition animale et tout ce qui va être lié au développement durable et à l'environnement. Et en fait, leur dénominateur, c'est qu'ils ne souhaitent pas déconsommer. Ils ne veulent pas être des déconsommateurs, mais plutôt mobiliser la consommation comme une nouvelle manière d'atteindre un objectif, soit de développement personnel, agir sur sa santé, sa famille et par extension sur la planète.
Ouais, mais vous assimilez ça à un déni de compréhension des phénomènes scientifiques actuels, le fait de ne pas souhaiter déconsommer ?
Ah non, pas du tout. Je m'intéresse aux imaginaires. Donc les imaginaires, chaque culture, chaque personne a besoin de se raconter des histoires, d'adhérer à des récits collectifs pour pouvoir ordonner ses pratiques quotidiennes. Et le fait de savoir qu'il y a une urgence éco-environnementale, c'est une chose. Ils ne sont pas dans le déni de ça. Par contre, ils vont porter une croyance que par la consommation, et notamment la consommation éco-responsable, on va avoir des produits qui vont être labellisés, qui vont appartenir à nouveaux circuits d'échange ou qui vont prôner de nouveaux engagements, et cette transition, elle sera possible. Et c'est ce qui est le plus agréable à croire pour des individus qui ne sont pas engagés dans des voies de changement radical ou qui ne veulent pas créer une autre société, mais qu'ils veulent maintenir leur mode de vie, leur routine quotidienne au maximum.
Oui, mais enfin, c'est à partir du moment où il y a croyance, il y a déni, non, Anne de Rugy ?
Alors, je sais pas, je saurais pas quoi dire exactement s'il y a déni ou pas, mais je pense que surtout il y a une contradiction vraiment très forte parce que c'est un modèle extrêmement prégnant, la consommation. La consommation, c'est un modèle où, enfin, dans la consommation, en général, on est assez heureux, on est assez content de sa consommation, justement. On va dire, elle est éthique, elle est. Donc, c'est un domaine où il y a finalement plus de contentement que dans le travail, où il peut y avoir des frustrations. Et donc, il y a vraiment une difficulté à, d'un côté, être d'accord avec l'idée qu'il faudrait consommer moins ou avec l'idée que la consommation, c'est superficiel, voilà, toute une critique de la consommation que vraiment tout à chacun partage, et puis le fait de le mettre en pratique soi-même. Et puis, il y a peut-être une autre question qui est qu'il y a beaucoup de campagnes, je dirais, d'alerte qui sont consommer mieux, boycotter ceci, consommer cela, et beaucoup moins, consommer moins. ça, c'est pas très, voilà, ça va pas être très vendable non plus. Une entreprise va pas dire consommez moins. Ça commence un petit peu sur le durable,
mais y compris d'ailleurs du côté des programmes politiques économiques.
Oui, tout à fait, parce que d'un côté, il y a le côté à qui on va dire consommer moins. Est-ce qu'on va dire consommer moins à quelqu'un qui a du mal à finir ses fins de mois ou qui est dans une survie difficile ? C'est indécent. Donc, on veut le dire à certains, mais ceux-là, si on leur dit frontalement consommer moins, d'abord, tout le monde va l'entendre. Ce n'est pas un message qui actuellement passe facilement et il faudrait que ce soit un message ciblé.
Et pour les entreprises, ce n'est pas acceptable.
Et voilà, et en plus...
On aille dire à de futurs clients, consommez moins.
C'est un tel changement de système, puisque tout le système repose sur le plus d'accumulation, plus de revenus, plus de biens. Donc tout repose sur le plus. Donc à un moment donné, si on dit, ah bah stop, là, effectivement, il y aura une panique dans les imaginaires.
Fanny Paris, on est dans un malentendu total.
On est dans un statu quo où on essaye de concilier les paradoxes et les contradictions qui sont liées au constat qu'effectivement, cette logique du toujours plus et de la croissance trouve ses limites. Le capitalisme responsable prône la croyance dans le découplage, c'est-à-dire qu'on aurait d'un côté la croissance économique qui serait décorrélée de la destruction de la planète. Aujourd'hui, on est face à un découplage qui est relatif parce que même si on maîtrise mieux la destruction, en fait, on consomme plus. Donc c'est aussi le côté qui est pervers au-delà des contradictions, c'est de se dire si on donne bonne conscience et qu'on propose de nouvelles offres, que ce soit des services, des produits ou des expériences qui sont perçues comme éco-responsables, ça va même rendre encore plus désirable la consommation et amener à consommer toujours plus.
À quoi vous pensez, par exemple ?
À quoi je pense, c'est par exemple quand on va avoir des produits qui vont être moins énergivores. Comme des appareils électroniques, etc. Du moment où ils sont moins énergivores, on va avoir tendance à plus les utiliser parce qu'on a bonne conscience. Pareil avec la rénovation énergétique. Quand on a un bâti qui va être rénové, on va chauffer plus parce qu'on se dit que c'est mieux isolé.
C'est le cas pour les lave-linges. Ça a été démontré par la fédération Que Choisir, qui a montré que les lave-linges n'avaient jamais aussi peu consommé d'électricité et d'eau et qu'ils n'avaient jamais autant tourné à vide, c'est-à-dire avec aussi peu de linge. Donc c'est quand même effectivement un bon exemple. Vous dites, dans votre livre, Fanny Paris, on peut comparer la période actuelle à celle des 30 glorieuses du siècle passé, qui, en consommation, correspond à une phase d'équipement des ménages. Là, on a accédé au confort,
à la modernité,
à la libération de la femme aussi, qui passait quand même ses journées à trimer et qui n'était pas aidée par l'électroménager notamment. Et vous dites, en 2022, même équipées, les personnes n'hésitent pas à racheter des produits perçus comme plus responsables, acquérir une voiture électrique alors qu'on a une voiture thermique en état de marche. La gourde en verre que vous citiez. En même temps, est-ce qu'en ce moment, l'actualité ne vous donne pas un peu tort ou on est en train plutôt d'aborder une phase de récession économique et où fatalement, les gens vont moins consommer ?
Après, je vous rappelle que la population d'études, ce sont une population qui a un pouvoir d'achat qui est important, qui mobilise cette nouvelle phase d'équipement comme un levier de distinction où la sobriété, où les images de la sobriété sont devenues un nouveau signe de prestige. Donc, ils pourront toujours changer de brosse à dents en plastique pour une brosse à dents en bambou, même si le bambou vient de l'autre bout du monde.
Vous êtes d'accord avec ça ? Anne de Rugy.
Oui, je crois qu'il y a de toute façon beaucoup de freins au changement. Il y a un des freins, je pense, c'est l'idée qu'on sera seul, parce que même si on... Enfin, seul à moins consommer, il y a certainement une capacité. Si on interrogeait un à un les gens, ce à quoi ils tiennent, ils seraient capables certainement de dire bah, « ça, je pourrais le supprimer », etc. Mais collectivement, on est dans un... finalement, c'est quand même la consommation qui est valorisée. Donc, s'engager tout seul à ne pas prendre l'avion quand finalement tous ses collègues partent en vacances en avion, ça paraît dérisoire. Et puis, on se dit, à quoi bon ?
Alors, il y a aussi, vous parliez beaucoup des imaginaires, Fanny Paris, et c'est ça qui nourrit la consommation et le désir d'acheter quelque chose, en dehors du fait de se nourrir, évidemment, pour survivre. Côté musique, vous évoquez le rap, cette musique mondialisée qui prône souvent un idéal matérialiste, dites-vous.
Oui. Exactement. Le rap, qui s'est démocratisé d'une manière fulgurante ces 20 dernières années en Occident, est hyper intéressant, je trouve, parce que d'un côté, on va avoir des valeurs qui sont assez contestataires. Ils vont aborder tous les sujets de société, que ce soit la politique, l'écologie, etc. Et du coup, ils vont avoir une tribune qui est relativement importante. Mais d'un autre côté, ils vont mobiliser la récupération de tous les codes de la haute bourgeoisie qui, au final, continue à maintenir un petit peu le collectif dans un statu quo où effectivement, on peut émettre certaines critiques, mais en définitive, l'ordre social reste quand même bien établi.
C'est le côté bling-bling du rappeur qui vient d'une famille souvent modeste, de quartiers précaires, et qui a réussi et qui a envie enfin d'en profiter comme les autres.
Alors, pas que, parce qu'effectivement, à la base, l'univers du rap, c'était ça. Maintenant, on a des rappeurs qui sont issus des classes moyennes et qui prônent... une autre interprétation, parfois sociologique, de la société, comme le périurbain, comme celle des classes moyennes. Et à chaque fois, en fait, on est toujours dans cette tension entre on apporte de la distance et on évoque une critique sur l'ordre social, et de l'autre côté, on participe à récupérer les codes des classes sociales supérieures pour pouvoir montrer sa réussite.
Vous restez avec nous au programme musical chez 7 milliards de voisins. Vodou Game, c'est pas du rap, mais il prend du recul sur le réchauffement climatique et cet objet emblématique du confort moderne. Mon canapé.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Je veux le canapé de tous les canapés. Je veux la grosse voiture de toutes les grosses voitures. Aussi la grosse télé pour regarder Arthur. Et puis après tout ça, c'est pour venir me dire
que la terre s'est réchauffée et que la banquise a tout fondu.
Quand je vois le ciel rempli de tous ces beaux oiseaux, je vois les rues vidées de toutes vos grosses voitures. Je vois la mère nature jeter ses enfants.
C'est Vodou Game chez 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI. On s'interroge sur les enfants gâtés du capitalisme responsable, de la consommation durable. On en discute avec vous, Fanny Paris, anthropologue. Vous publiez Les enfants gâtés, anthropologie du mythe du capitalisme responsable. Anne de Rugy, vous êtes sociologue à l'université Paris-Est Créteil et vous travaillez sur les déclassements choisis, c'est-à-dire ces personnes qui décident une bifurcation professionnelle avec une baisse de revenus. Qui sont ces personnes? Quels sont ces choix de vie? À quoi ça correspond aujourd'hui à notre époque, Anne de Rugy.
Ben là, je crois qu'on pourrait dire aussi que ce sont des enfants gâtés d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est des profils qu'on voit assez souvent aujourd'hui. On l'a vu avec peut-être l'appel des étudiants d'AgroParisTech qui disaient qu'ils voulaient bifurquer et donc qui refusaient...
Donc, de futurs ingénieurs, voilà, hein, de très jeunes ingénieurs.
De très jeunes ingénieurs qui voulaient devenir, alors je n'ai pas retenu exactement, mais brasseurs de bière ou agriculteurs en permaculture.
Ou faire du miel.
Voilà, donc des engagements professionnels un peu écologiques. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de diplômés de grandes écoles ou de l'université qui ont eu des postes de cadre et qui, à un moment de leur vie, parfois, voilà, pour différentes raisons, dont parfois des burn-out, décident de bifurquer pour des raisons à la fois personnelles et écologiques et de sens aussi. C'est-à-dire aussi l'idée qu'ils n'ont plus envie de servir des entreprises qui sont en contradiction avec leurs valeurs.
Alors, ces personnes, ces jeunes ingénieurs-là, en l'occurrence, ils sont ultra minoritaires, mais en tout cas, ils sont suffisamment visibles pour que ça affole complètement les directions des ressources humaines des grandes entreprises, des multinationales, qui ont moins de choix qu'avant pour recruter des talents.
Oui, alors je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais en effet, en tout cas, si le mouvement venait à s'étendre, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, et en particulier, c'est quitter l'entreprise, là. Donc, quitter les grandes entreprises en étant les enfants gâtés de ces entreprises. Donc, en ayant aussi les moyens de quitter, hein, bien sûr. Mais si le mouvement était vraiment large, c'est vrai que ça interroge sur le sens et sur sa puissance de changement. Parce que ça remet en cause aussi toutes les valeurs, même tout le système scolaire, qui est quand même centré sur les grandes écoles, avec l'idée qu'on a un poste de cadre, qu'on est bien rémunéré, qu'on a un bon poste. Et même si on a un petit capital, par exemple, ou un logement, devenir agriculteur en permaculture, ça veut dire plus d'aléas, ça veut dire des revenus vraiment très inférieurs. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressée, c'est comment on pouvait vouloir baisser ses revenus ou l'accepter. Parce que c'est, en général, on veut changer de travail et on accepte moins de revenus. Et donc, changer sa consommation.
Et en changer complètement, là, pour le coup, son style de vie.
Voilà, là, pour le coup, il y a une déconsommation, parce que c'est assez mécanique. Hein, si on a moins de revenus, mécaniquement, on déconsomme. Et puis, comme c'est des revenus très élevés aussi, ça peut être. C'est-à-dire que c'est pas forcément. Ça peut être des enseignants qui vont à la campagne. Là, ça va être une baisse de revenus peut-être de 1 à 2, mais il y en a qui diminuent par 17, parce qu'ils étaient traders, ils deviennent instituteurs, par exemple. Donc là, il y a forcément un changement de consommation. Et ce changement de consommation... Il se fait avec l'appel des valeurs écologiques, mais de facto aussi, c'est effectivement un certain nombre de consommations, en particulier les voyages, par exemple. Même aussi
les loisirs dans leur ensemble.
Les loisirs dans leur ensemble, évidemment. Tout ce qui va être les consommations typiques des cadres et des privilégiés.
C'est-à-dire que c'est des gens qui vont passer de l'après-midi au centre commercial à une après-midi dans les champs à se promener. Où là,
tout à fait.
Il y a zéro émission de carbone.
Voilà, qui vont un peu réhabiliter les loisirs gratuits, la marche, le contact avec la nature. Donc là, ce qui est intéressant sans doute, c'est quand même que le changement de consommation qui est assez radical se fait aussi qu'un changement de vie et un changement de travail. C'est pas juste, maintenant, votre consommation, demain, vous la divisez par deux.
Mais comment ces personnes-là, ces choix-là qui restent extrêmement minoritaires, mais rendus très visibles dans les médias, notamment à travers des histoires, sur les réseaux sociaux, à travers des parcours, des youtubeurs qui racontent leur histoire, leur manière de vivre en autarcie. Comment ça change un regard plus global sur la consommation ou pas du tout d'ailleurs? Pour vous, Anne de Rugy.
C'est compliqué de savoir ce que ça change. C'est sûr qu'il y a une forme d'héroïsation parce qu'en fait, ça illustre aussi des valeurs qui sont centrales dans notre société, qui est choisir sa vie. Donc choisir sa vie, c'est pas censé choisir gagner plus. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas l'idéal et pas matérialisé aussi froidement. Or, souvent, c'est quand même ça, les bonnes études qui vont apporter un bon métier qui va être relativement confortable, mais bien payé aussi. Donc l'argent reste vraiment quelque chose de central, mais un petit peu dénié. Donc là, il y a quelque chose qui va être considéré comme héroïque que de suivre son propre désir, de sonder son désir et d'aller vivre en autarcie, de vivre vraiment ses valeurs, parce que c'est aussi notre société qui énoncent ce modèle sans le suivre, ouais. En fait.
Mais est-ce que ces personnes-là, ces enfants gâtés-là que vous décrivez, ça relégitime ou ça rend moins honteux les choix de consommation forcés des personnes les plus pauvres qui sont très contraintes hein, dans leur façon de vivre parce qu'elles n'arrivent pas à boucler leur fin de mois?
C'est compliqué parce que il y a effectivement, on voit à travers ces changements l'importance de l'argent et de la consommation dans la relation sociale. Par exemple, on va voir des gens qui disent bah voilà, mon fils est invité à des anniversaires, il faut apporter un cadeau à chaque fois. Bon, c'est compliqué parce que
j'ai pas l'argent pour acheter
j'ai pas l'argent.
Un cadeau.
Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez courant, mais totalement invisibilisé parce que il y a quelque chose qui est honteux dans le fait de ne pas avoir d'argent. Et donc là, effectivement, comme c'est choisi. Alors, on va pouvoir dire « je l'ai choisi », donc c'est digne. Mais ça n'enlève pas, en fait, la différence avec quand c'est subi, et puis le vécu personnel aussi, c'est pas la même chose. Et souvent, c'est quand même aussi des gens qui restent privilégiés. C'est-à-dire que c'est très varié, mais il y a, par exemple, oui, ils ont hérité d'une petite maison, ou ils ont déjà payé leur maison. Donc, il y a une sécurité qui est là. Il y a un minimum de consommation qui est là. Donc, pour ne pas être trop angoissé sur la consommation.
Mais si on prend l'exemple du marché du vêtement d'occasion, il n'y a encore pas si longtemps, porter des vêtements qui avaient déjà été portés par un autre, c'était quand même assez honteux, c'était assez... on n'en était pas fiers, on ne ressentait pas de plaisir à porter des vêtements d'occasion. Aujourd'hui, c'est devenu au contraire un dogme, un modèle, etc. Alors, est-ce que là-dessus, vous êtes dubitatif sur ce marché du vêtement d'occasion, Anne de Rugy?
Oui, y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a un marché du vêtement d'occasion qui n'a pas grand-chose, n'est pas très écologique. Là, je pense que Fanny Paris nous le confirmerait là-dedans, qui est l'idée d'optimiser ses achats, donc d'acheter des vêtements neufs moins chers, donc d'être un consommateur malin. Derrière, on ne sait pas trop quels sont les kilomètres parcourus
pour la livraison de chaque vêtement.
La livraison de Madrid à Paris, ou voilà. C'est quand même d'abord le plaisir de la consommation. Évidemment, il y a c'est des vêtements qui ont déjà été achetés, donc on pourrait dire que c'est quand même mieux que des vêtements neufs en termes d'impact carbone. Bon, après, s'ils ont un achat de 15 jours, ça pousse aussi à acheter plus. Donc, c'est vraiment pas sûr. Et j'aurais plutôt à dire que c'est vraiment pas une économie très écologique. Et puis, ça pose toujours la question de... Oui, là, c'est quelque chose d'assez choisi, qui correspond à une mode. Ça peut être aussi la mode des adolescents urbains qui s'échangent tous les bons trucs pour acheter d'occasion ou dans les friperies. C'est pas la même chose que d'hériter systématiquement des vêtements du cousin, de la cousine, du frère, de la sœur, de ne jamais les choisir... Et de devoir avoir des vêtements usés, de ne pas pouvoir s'acheter de chaussures neuves. Donc, il y a aussi... Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu des enfants gâtés qui ont déjà l'expérience du neuf et qui peuvent compléter cette expérience. Après...
Vous avez rhabillé pour l'hiver tous ceux qui se faisaient des illusions en achetant des vêtements d'occasion.
Après, si c'est une fois par an chez Emmaüs, les chaussures, parce qu'effectivement, on a un revenu qui est fortement baissé du fait d'une bifurcation d'une vie à la campagne, là, on est dans un autre modèle. C'est vrai qu'on a quand même quitté le modèle de consommation massive.
Et malgré tout, vous les avez quand même décrits comme des enfants gâtés. Ceux qui ont choisi de déconsommer avec une forte baisse de revenus. Fanny Paris, pour vous, sont aussi des enfants gâtés ou pas?
Alors, bien évidemment, ce sont des enfants gâtés, sauf qu'ils vont sortir de mon scope d'observation du moment où ils sont dans ces bifurcations. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça interroge les déplacements des systèmes de contraintes et des logiques de distinction sociale dont on parlait un petit peu précédemment. Quand on va avoir une contrainte financière ou de temps qui va être subie ou qui va être choisie, on ne va pas se positionner de la même manière dans une société. Et ces bifurcations dont vous parlez sont également des reconversions pour s'inscrire dans un moment de société face à l'essoufflement du culte de la performance. Donc on trouve d'autres voies d'épanouissement personnel pour s'inscrire dans un collectif. Donc même si on a une réduction du budget mensuel ou de manière annuelle, on trouve d'autres formes d'épanouissement qui s'inscrivent dans des logiques de distinction sociale qui sont autant de violences symboliques pour ceux qui sont des déconsommateurs contraints parce qu'ils ont un revenu qui est de plus en plus sous contrainte. Ils sont obligés de faire des choix qui vont être subis, même si aujourd'hui, ces choix subis sont un petit peu ceux qui donnent le ton dans une société, mais ça ne va pas forcément être perçu en tant que tel par ceux qui sont vraiment sous des systèmes de contraintes très forts.
Quoi qu'il arrive, il faut sauver la face. C'est le propre de l'humanité.
Oui, alors je ne sais pas si ça peut être réduit à la distinction. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de distinction, c'est évident, parce que chacun essaie aussi de sauver la face, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire montrer qu'on est digne de la condition humaine. Donc, bien sûr qu'il y a des jeux de rivalité, des jeux de distinction, et qu'il va y avoir une manière de dévaloriser ceux qui sont restés dans le système. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'écart qu'il peut y avoir. S'il y a des grands écarts, s'il y a un changement de mode de vie, il y a quand même un renoncement à quelque chose. Il y a quand même un changement. Et d'ailleurs, ce n'est pas si massif que ça. Ce n'est pas l'ensemble des cadres diplômés d'HEC qui deviennent bergers ou instituteurs. Et d'ailleurs, on a du mal à recruter les instituteurs, donc sans doute pour d'autres raisons. Mais aussi parce que le salaire...
Et puis, il y a un problème de désir et de créativité. On va en parler, la créativité, l'innovation, puisque c'est la grande illusion. Ça pourrait probablement peut-être être pour beaucoup la solution au dérèglement climatique. On en discute dans quelques instants avec vous chez 7 milliards de voisins.
RFI.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, j'adore l'émission. Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
Qu'est-ce que vous définissez comme créativité? Parce qu'on parle beaucoup dans les entreprises de l'innovation. Mais en quoi ça a un lien finalement avec, alors on ne va pas dire le déni parce que c'est un terme que vous récusez, mais en tout cas l'illusion qu'on peut consommer responsable parce qu'on est des créatifs d'une certaine manière.
À l'échelle de la société, on est dans une approche technosolutionniste qui permet de faire perdurer le mythe du progrès. Et c'est par
une approche technosolutionniste.
Exactement. Oui. C'est par des inventions technologiques de procédés sociétal ou marketing, qu'on arrivera à maintenir à la fois nos sociétés et assurer la transition éco-environnementale.
Et ça, en gros, tout le monde attend la voiture à hydrogène en se disant que ça va régler à la fois les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, de problèmes de terres rares pour les batteries, etc., etc.
Exactement. Et ça positionne chaque individu en tant que micro-spéculateur de lui-même où, au final, cette croyance dans le capitalisme responsable rend possible les contradictions entre ses valeurs et ses pratiques. Et à l'échelle de l'individu, dans la société aussi, on va prôner une créativité, une flexibilité, une adaptabilité pour réinventer sa carrière, pour réinventer son poste, sa manière de vivre, sa manière même de vivre avec sa famille pour pouvoir accéder et supporter tous ces changements. Et ce qui est intéressant, c'est que cette créativité n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il ne faut pas avoir un système de contraintes trop fort parce qu'il faut avoir le temps, l'envie et les moyens à la fois symboliques, économiques et matériels de pouvoir prendre un petit peu de recul et se dire « bon bah comment je peux faire différemment pour m'adapter aux changements qu'on me demande ?»
Oui, dans un monde qui est bourré d'incertitudes à l'heure actuelle, vous dites qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont là, notamment des start-up, pour apporter des réponses concrètes et rassurantes à ce monde de l'incertitude qui s'ouvre devant nous.
Exactement. Avec ces approches technosolutionnistes, l'idée, c'est d'imaginer de nouvelles offres, de nouveaux services ou de nouvelles expériences qui vont apporter des solutions prêtes à penser ou prêtes à consommer au caractère anxiogène et incertain de la consommation. Je parle notamment dans mon ouvrage du marché de l'œuf éthique qui va permettre d'apporter une solution.
L'œuf éthique exactement ?
L'œuf éthique, c'est un œuf qui est vendu comme sans souffrance animale. Donc,
avec des poules élevées en plein air, a priori.
Des poules élevées en plein air qui ne sont pas envoyées à la réforme, c'est-à-dire à l'abattoir au bout de 18 mois, mais qui sont accompagnées dans le nouveau cycle du ponte et qui en plus pratiquent le sexage Inovo qui permet d'éviter le broyage de poussins mâles à la naissance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ces startups sont arrivées dans la continuité de certains militants comme L214 qui, depuis des années, avaient
posté ces vidéos sur les violences animales.
Exactement, mais eux ont changé de stratégie de communication et ont permis un enchantement par l'éthique et l'éco-responsabilité en démocratisant ces problématiques de la filière des poules pondeuses tout en apportant une solution et une consommation dite éthique car éco-responsable à la consommation d'œufs.
Bon, enfin, ça ne pose pas de problème en soi par rapport à l'émission des gaz à effet de serre.
Bah, si. C'est parce que, en fait, ça amène des différences entre les individus parce qu'on va avoir un prix de l'œuf qui va être deux fois supérieur aux œufs conventionnels et ça va amené aussi des angoisses supplémentaires et même une charge écologique auprès des individus, parce que ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne trouvent pas ces œufs-là, et ben, comment ils font pour consommer bien alors qu'ils n'ont pas envie d'être les bourreaux, en quelque sorte, de ces poussins ou de ces poules s'ils consomment un œuf conventionnel ou même bio ou même label rouge.
Ouais, comment rajouter des fractures sur les fractures, Anne de Rugy ?
Oui, oui, c'est sûr. C'est toute la question aussi de la consommation individuelle, du choix individuel, c'est-à-dire d'agir individuellement pour le climat, pour l'écologie, alors qu'on est... c'est une illusion, en fait, ce choix individuel, l'idée que chacun choisit sa vie. C'est pas qu'une illusion, mais c'est en partie une illusion dans le sens où il y a des modèles sociaux extrêmement forts qui guident la consommation, qui donnent des modèles vraiment de ce qui est bien, justement, d'imaginer qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie. Donc, il y a des jugements permanents dans la vie sociale. Et donc, là, ça invite à questionner ces modèles et à dire comment on veut vivre. Mmh. Et ça, c'est une question qui est quand même politique, qui est quand même globale, qui n'est pas une question individuelle.
Alors, en ce moment, quand même, avec la pénurie de matières premières, qui est d'ailleurs pas seulement liée à la guerre en Ukraine, l'inflation, on parle de plus en plus de la fin de la société de l'opulence. Quelle résonance ça avec le changement climatique? On a, par exemple, ça a été très médiatisé il y a quelques semaines, des pénuries de moutarde. Hein. Là, c'est la petite actualité en France, hein, mais tout d'un coup, ça a créé la panique. Les gens font des stocks de l'huile, de la farine, des pâtes, parce qu'ils se disent ça va coûter plus cher dans quelques semaines. Ça rajoute de la pulsion d'achat, ça permet de réfléchir. Comment vous voyez les choses, vous, par rapport à votre terrain d'étude, les enfants gâtés ?
Eh bien, j'ai envie de dire un petit peu les deux, et ça va dépendre des individus dont on parle, parce qu'on est à la fois dans une logique de gestion des stocks pour pouvoir anticiper l'inflation à venir, mais également dans une perte, dans une peur assez individuelle de renoncer au confort et du coup aux aménités du quotidien avec des produits à un prix accessible et en grande quantité à côté de chez soi. Après, ce que l'on peut observer par rapport aux différentes catégorisations d'individus, c'est qu'on va avoir des stratégies qui vont être mises en place et qui vont être différentes pour pouvoir répondre et réduire ces angoisses liées à ces pénuries. Par exemple, on va avoir effectivement des individus qui vont avoir du stockage important pour pouvoir gérer leur budget, et à l'inverse, on va avoir d'autres individus qui vont prendre ce moment comme une opportunité pour pouvoir tester des alternatives, d'autres produits et consommer de manière un petit peu différente. Donc on va avoir une réalité qui est vraiment plurielle derrière ces pénuries qui vont renvoyer un imaginaire, pas forcément de la crise en tant que telle, mais d'un changement par rapport à l'accessibilité et au confort de la consommation dite de masse.
Ceux qui profitent justement pour changer leur façon de consommer, c'est plutôt ceux que vous étudiez, Anne de Rugy, les autres enfants gâtés.
Oui, oui, sans doute. Je ne sais pas si des crises aussi, enfin, des manifestations vraiment sur la consommation, mais c'est sûr que le confinement, par exemple, a entraîné des réflexions sur le mode de vie, comment on veut vivre, quelle est la place du travail, quelle est la place de la consommation, qu'est-ce que c'est que vivre bien. Donc, il y a évidemment des questions éthiques. Et ça, ces questions-là ont sans doute été plus posées. Et on peut être entraîné des changements, mais ce n'est pas si évident de le montrer en fait, à long terme.
En ce moment, il y a des livres qui sortent de chercheurs en neurobiologie, en psychologie cognitive, qui s'intéressent à notre câblage cérébral. On en a un peu parlé sur les pulsions de consommation, et qui démontrent que finalement notre cerveau a toujours été programmé pour le toujours plus, qu'on a finalement une incapacité à nous fixer des limites à la satisfaction de nos besoins. C'est vrai pour nous tous, c'est vrai pour les entreprises. L'objectif de croissance serait finalement inhérent au vivant, exactement comme les algues invasives qui ne s'arrêtent jamais de se reproduire si elles ne trouvent pas de prédateurs sur leur route. Je ne sais pas si vous avez suivi la polémique avec Elon Musk, le PDG de Tesla, sur le télétravail, qui a dit qu'il voulait tout le monde à son poste 40 heures par semaine, etc., parce qu'il trouve que finalement, on ne travaille pas assez. Et il a eu cette phrase intéressante, il a dit « Tesla a créé et fabriquera réellement les produits les plus excitants, les plus significatifs de toutes les entreprises sur Terre, et ça ne se fera pas en téléphonant ». C'est quand même assez frappant, cette espèce d'idéal du toujours plus, non ?
L'idéal du toujours plus...
Pour ceux qui nous gouvernent.
L'idéal du toujours plus va avec le mythe du capitalisme responsable, c'est donner l'illusion du changement par la continuité et permettre...
En étant toujours plus génial.
Bien évidemment, en étant toujours plus génial et en proposant des activités visionnaires qui permettent de stimuler l'imaginaire et de rendre acceptables ces contradictions qui sont demandées à tout à chacun dans leur mode de vie. Et avec cette citation d'Elon Musk, effectivement, la société d'abondance a encore de beaux jours devant elle.
Votre livre, Fanny Paris, a le mérite de permettre de se regarder dans le miroir. Vous vous défendez, c'est ce que vous dites, en tout cas de constituer une attaque en règle contre ceux qui continuent de consommer. Mais de fait, pendant 300 pages, tout le monde s'en prend plein la tête.
Et moi, la première. après, du moment où on fait de l'anthropologie, on a quand même un enjeu de décryptage de la réalité, de déconstruction. Et dès qu'on déconstruit, on désenchante et on va mettre le doigt là un petit peu où ça fait mal, sur les paradoxes, sur les contradictions, même si effectivement on a des initiatives qui sont vertueuses. Je ne suis pas certaine que ce soit une attaque en règle, comme vous dites, mais du moment où on propose une photographie d'un moment de société auprès d'une population qui est très spécifique, je le rappelle une deuxième fois, et ben forcément on voit que la réalité n'est pas forcément si idyllique, ou du moins qu'on a un écart qui est assez fort entre les récits collectifs et la réalité des pratiques et des routines de consommation.
Et pour vous, Anne de Rugy, est-ce qu'on peut décrypter sans moraliser ?
C'est un peu l'objectif du sociologue de ne pas faire la morale, effectivement, mais d'étudier la morale. Après tout décryptage, on dévoile des choses. Donc si on dévoile des choses, des mécanismes, ça peut apparaître aussi comme une forme de dénonciation.
Y a à suivre, les deux. En tout cas, à suivre, évidemment, ces débats ne sont pas prêts de s'arrêter. Merci à vous, Fanny Paris, Les Enfants Gâtés, Anthropologie du mythe du capitalisme responsable, aux éditions Payot. Merci à vous, Anne de Rugy, sociologue à l'Université Paris-Est. Créteil, demain, 7 milliards de voisins, retour dans le capitalisme et les entreprises avec notre rendez-vous mensuel sur l'emploi des jeunes en Afrique. C'est l'occasion de poser toutes vos questions à nos spécialistes sur le recrutement, avec une question centrale demain. Comment se constituer un réseau professionnel dès la fin de ses études? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec un grand nom du reggae électronique. Sûrement une musique plus polluante qu'une simple guitare acoustique, mais bon. Elle est au programme de 7 milliards de voisins aujourd'hui.
Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Pourtant tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi. Tu vas finir par te casser le pied. Je serai la montagne, tu feras laisser go. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. Tu seras le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi. On fera le soleil, tu feras l'ombre. Les masques tombent, tu mets en lumière tous tes côtés sombres. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt chaque fois quand on les rencontre. On fera le soleil, tu feras l'ombre. Les masques tombent, tu mets en lumière tous tes côtés sombres. On te serre la main et on se rend compte qu'il nous manque un doigt chaque fois quand on les rencontre. Encore un avion dans le ciel qui se prend pour une étoile, qui aimerait voler toute la Cassiopée. Pourtant tu dis du mal de moi, t'aimerais kicker comme moi. Tu vas finir par te casser le pied. Je serai la montagne, tu feras les échos. On ne parle jamais quand on en sait trop. Je serai l'étoile, tu feras la déco. On a beau trop tourner, t'as que des mauvais échos. On sera l'éléphant, tu seras la souris. On sera le bon temps, tu seras les soucis. Tu donneras ton avis sur chacun de mes choix. Tu diras des autres ce que l'on pense de toi.
Bigaranx, montagne chez 7 milliards de voisins sur RFI. Dans quelques instants, ce sera le journal. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Elsa Oleizola, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Nos émissions sont dispo en podcast.